France Inter.
Si je vous dis cocotier, pensez à quoi ?
Notre coco, tropique.
Bravo, gagné. Pour vous, ça sera la Guyane.
CO2, mon amour.
La Guyane, c'est bien.
Enfin, c'est-à-dire, c'est la jungle. Hein.
Au ministère aussi, c'est la jungle.
Denis Chessou.
Vous aurez la responsabilité de poser la première pierre du chantier Guyaneige.
Guyaneige.
Nous allons construire la première station de ski indoor en Amazonie. À neige artificielle
sur France Inter.
Voilà d'excellentes idées. On va être un petit peu loin de ce qui se passe dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Benjamin Wagon à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Et qui commence par une petite humeur. Formidable Mr. President. Après les réfugiés de la misère qui traversent Manche et Méditerranée sur des bateaux crevés, après les réfugiés politiques, les réfugiés de guerre, vous avez inventé les réfugiés scientifiques. Et là, création de la marque « Vous êtes viré », c'est une trouvaille. Et hop, dans un bateau, la spécialiste réchauffement de la NASA avec des dizaines de milliers d'autres chercheuses, universitaires et ingénieurs. Et cette idée de supprimer les mots, de ne plus nommer les choses pour les faire disparaître, de l'anti-Albert Camus. Allez, on va virer le mot climat, réchauffement d'origine humaine, diversité, basé sur la science. Bon, wokisme, bien sûr, c'est un minimum avec LGBT. Une guerre éclair au vocabulaire, changer le monde et basculer dans une oligarchie en attendant mieux. Alors on a réfléchi quand même à supprimer les mots énergie renouvelable, mais comme on en a déjà beaucoup sur notre territoire et qu'on fait du business avec, on va le garder. Contrôler la science et la production de connaissances, supprimer des millions de données ainsi que la surveillance du virus grippal. Bah oui, quoi, pourquoi faire ? En parler de ce virus, c'est lui donner de l'importance. Et puis après, il réagit plus fort. Et le mot écologie, un autre premium sûrement à supprimer. En revanche, allouez-moi des crédits de recherche sur la résistance des gazons de golf au réchauffement climatique. Oui, mais Mr. President, on a dit que le réchauffement climatique n'existait pas. On l'a glissé sous le tapis, enfin je veux dire sous le gazon. Vous avez raison. Crédit pour gazon de golf et tempête alors. Mais je dois malgré tout vous signaler que des réfugiés climatiques arriveront tôt ou tard. Et ces Frenchies arrogants qui veulent museler l'expression de nos réseaux sociaux libertariens, qui n'ont pas compris que la guerre est la faute de l'Ukraine, ont commencé à avoir des réfugiés climatiques chez eux, malheureusement dans les polders du Pas-de-Calais et du Nord. Plus de 6000 habitations et 1000 personnes ont dû être logées. Voilà, et puis lentement mais sûrement, érosion, submersion du littoral, et chez nous, Mr. President, c'est pareil. Eh ben, dites quand même sur les incendies à Los Angeles et Katrina en 2005, on a été meilleurs qu'eux. En fait, retirez quand même les mots érosion, submersion, incendie et tempête. Ah, vous êtes merveilleux. Votre élection depuis que la Terre est plate est la nouvelle la plus importante depuis la naissance de Jésus-Christ. Et ben voilà, mes amis, le bateau ivre sur lequel nous dansons. Alors, ma génération qui pensait passer en paix au travers des gouttes de plomb a vu rapidement quelques illusions s'envoler. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est écrit. Eh ben non, qu'on peut être très fort ensemble si nos États européens donc le veulent. Comment rester humain sur une terre demain de moins en moins habitable, de moins en moins démocratique ? Réponse par le collectif. Il ne faut pas fuir nos peurs. Bien identifiées, elles ordonnent des réactions vitales positives. Alors vous allez me dire, on est un peu engoncé dans les couettes moelleuses de notre confort occidental sécurisé. Saurons-nous sortir de nous-mêmes et regarder enfin autrement la nature, car sans nature, il n'y a pas de futur. Et le philosophe Patrick Vivray, sans être dans un délire optimiste, nous dit que nous sommes dans un temps de chrysalide. Quelle sera la gueule du futur papillon, monstrueux ou harmonieux, allez savoir. Ah, quand même, une dernière chose, Mr. President. À 4 degrés de climat en plus, on ne s'adapte plus. On choisit juste qui on sauve. Et donc on va se faire du bien, ah oui, on en a besoin, une mini-cure de 24 minutes de nature sur fond d'eau thermale, de sources chaudes de Cotterêts, avec les gardes du parc national des Hautes-Pyrénées, la nature chuchotera à vos oreilles au milieu des gaves.
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge, il y a les rivières. Des films d'épouvante, pour les pièces de monnaie. Il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, tout petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque. Exactement, juste à côté. Pas en dessous. Pas n'importe où. À côté de la plaque. De quack en quack. D'échec en échec. Mal à l'estomac. Besoin d'un break. N'importe quelle bagnole, besoin d'une bouche.
Eh ben nous aussi, on adore le monde. C'était The Limilianas et Bertrand Belin sur France Inter. Et que vois-je cette semaine? Ben c'est la déesse Pyrène qui nous invite, ou cela à Cotteray.
Il y a des ombellifères, il y a de la laitue. Et ici, c'est un versant qui est plein d'ensoleillement. Il y a quelques orchidées. Tiens, je vois l'orchidée vanille, là. Hein, elle est juste là.
Ah!
Tu vois, elle est, on la voit à peine qui montre son épi, donc assez discrète, mais tiens, on en voit une autre tache là-bas. Donc, les petites orchis vanille qui sont en train de nous embaumer. Tiens, il y en a une autre encore plus près, là, tu vois, on pourrait presque aller mettre le nez dessus. Tu vois, un petit épi d'orchidée.
Oui, presque pourpre.
Donc, tu as de la réglisse, le trèfle alpin, là, qui se trouve juste en bordure. Et ça, c'est vraiment la résultante. Il y a du serpolé, du thym serpolé, du lotier. La résultante de pâture depuis des centaines et centaines d'années sur ce versant, bien au sud. Hein. Généralement, les versants sud sont voués aux estives pastorales et les versants nord, plutôt à la forêt pour retenir les sols.
Ben oui, il y avait un petit peu de vent quand même l'été dernier, donc à 1700 mètres d'altitude au-dessus du pont d'Espagne et au cœur d'une humanité donc, qui danse au bord du volcan. On va prendre de la hauteur, du recul, voilà. On va se faire prendre par la main de la nature et donc direction les Hautes-Pyrénées sur les chemins autour de Cotteray. Et Victor Hugo ne s'y trompe pas avec Juliette Drouet. Il découvre Gavarnie, le pont d'Espagne, le lac de Gaube avec le Vigmal qui regarde les amoureux. Nous sommes dans le parc national des Pyrénées, né en 1967. Un de nos 11 parcs nationaux. Et puis vous avez Cotteray, qui est une jolie commune, hein, à qui on peut rendre visite même si on n'a pas une maladie respiratoire. Vous avez la vieille gare en bois, des pavillons norvégiens, de l'exposition universelle, de belles allées, des berlingots et de la neige aussi, donc en hiver. Cotteray, ça vient en fait du mot gascon Cautares, c'est-à-dire la source d'eau chaude. Donc une ville thermale qui est renommée depuis le Second Empire, qui a été visitée par Georges Sand, Musset, Flaubert, Stendhal, Sarah Bernhardt, qui a déboulé aussi avec son léopard. Donc il a fait un peu de dégâts dans les hôtels, donc on ne l'aimait quand même pas trop. Bien, là-bas les torrents sont des gaves, on verra celui de Lutour et celui de Gaube. On prend donc le temps avec Marc Campin et puis Christian Rincheval après, donc deux formidables raconteurs. Sauveur, deux anciens gardes de ce parc national des Pyrénées. Allez, on respire, c'est parti.
Ah, alors là, on est face à ce lac de Gaube. C'est-à-dire que l'on a donc les eaux du Vignemale qui l'alimentent.
Oui, c'est sûr, c'est toute cette vallée-là qui est un peu fermée entre la vallée du Lutour et la vallée du Marcado. Une sorte de vallée bien en V, là, qui recueille toutes les eaux des crêtes de Coulières ou de Meilla et qui alimente avec ce qu'on voit en fond, la cascade des Plumouses et le glacier du Petit Vignemale et des Oulettes de Gaube, la grande mare, le grand étang du lac de Gaube fermé par le verrou glaciaire où nous sommes.
Oui.
Cette semaine, c'est à la reine des Pyrénées que nous avons rendu visite. Une reine qui, quelques jours plus tôt, eût été couronnée de neige, mais qui n'en gardait pas moins son aspect riant. Ces sources connues dès la plus haute antiquité ont rendu la santé à des générations et des générations de malades, illustres ou obscurs, humbles ou fortunés.
On comprend assez bien que Victor Hugo, avec sa chère Juliette Drouet, s'y soit quand même drôlement plu en 1843, là, quand ils sont venus.
Ben oui, c'était encore des vallées encore plus fermées qu'aujourd'hui. Bon, l'accessibilité se faisait soit à dos d'homme, il y avait des hommes qui étaient avec des chaises à porteurs pour amener toute l'aristocratie aux eaux, ce qu'on appelait la venue aux eaux avec ses effets bienfaiteurs sur tout un tas de soucis, de maladies. Et toutes les cours du monde sont venues à Cotteret, Lucien Sauveur, Bagnères de Bigorre, Luchon. Donc c'est un peu ce qui a fait connaître aussi les Pyrénées. Et notamment, ça a été le début aussi de la botanique. Et avec des aventuriers tels que Russell, qui sont venus justement louer le Vignemale. Vous imaginez, un gars qui loue le Vignemale, c'est pas rien.
Et donc, il avait creusé des grottes hein, aussi dans le Vignemale, où il s'installait, il recevait... Ils prenaient le thé et le temps de la méditation et de la réflexion.
Oui, c'est vrai que ces gens-là sont arrivés avec des savoirs différents de ce que possédaient peut-être les gens locaux. Eux, ils avaient la connaissance du terrain et Russell en a eu bien besoin. Et comme tous les grands pyrénéistes se sont servis de guides locaux, d'informations qu'avaient les bergers sur les passades en montagne. Mais eux, ils ont su apporter peut-être une vision naturaliste. Ils ont fait des herbiers. Ramon de Carbonnière, tout ça, ce sont des gens qui, en venant tout simplement se soigner, quand ils avaient du temps libre, eh ben, ils ont fréquenté cette montagne, ils ont été subjugués par la beauté des cimes, par les champs pyrénéens aussi, parce que je suis un peu chauvin. Et donc, ça a donné une dimension différente à la vie de la montagne des Pyrénées.
Alors là, Marc, on passe à flanc d'une zone végétale et floristique assez intéressante, hein, puisque donc on est sous un couloir, on va dire, d'avalanche, sous un pierrier, et on a des tas de fleurs qui en ont profité. Hein.
Alors ici, tu vois, tu as un tapis fabuleux d'asphodèles, qui est en pleine floraison, donc on est à la bonne période. Des épervières, tu as des populages dans les milieux un peu humides.
Et donc si on a certains papillons qui sont là,
oui,
c'est bien grâce directement à la pâture qui a permis à des fleurs de pousser et aux papillons d'être inféodés à ces fleurs.
Exactement, donc là tu vois, tu as un cortège, tu as un moiré qui vient de décoller devant nous, tu as des azurés, tu peux avoir la petite tortue, le citron, en plus inféodés à certaines plantes.
Oui.
Certains on va les trouver que sur des centaurées, d'autres on va les trouver que sur des trèfles, d'autres on va les trouver sur d'autres plantes. Donc c'est ça qui fait que sur un petit parcours, tu peux avoir 10, 15, 20 espèces de papillons et autant de plantes différentes.
Alors il y a d'autres animaux que vous affectionnez, ce sont les chauves-souris, on va peut-être pas forcément les voir, nous sommes en plein jour. Alors il y a celles que vous avez recensées donc, en forêt, et puis celles donc, qui vont habiter tous les monuments qui traînent.
Alors moi ce qui m'a intéressé, c'est que c'était une espèce qui a une faculté terrible de cohabiter avec l'homme. Et moi, je ne peux pas, dans ma particularité de garde-moniteur, je suis très attaché à la société humaine. Et j'aime bien les interactions entre l'animal sauvage et l'homme. Je sais que ma mère adorait voir les hirondelles revenir dans sa grange pour dire ça y est, le printemps est revenu. C'était les précurseurs des bio-indicateurs. Dans le langage paysan, on ne l'appelait pas bio-indicateur, mais elle disait c'est bon, les hirondelles sont revenues, il va falloir arrêter de chauffer le bois, la maison, arrêter de faire des bûches. Et pour moi, c'est ça, quoi. Je crois qu'on a perdu ce sens-là, cette capacité à se calquer sur la vie des animaux sauvages. Et cette relation-là, moi, m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que si je suis au parc, c'est parce que le lien de vie, on savait quel arbre il fallait couper pour se chauffer vite, on savait quelle fleur pouvoir cueillir. Bon, et puis avant de partir en vacances, c'est la période, on ramenait tous une cagette de fleurs de tilleul qu'il y avait dans les cours de récréation. Et ça, pour moi, c'est un grand bonheur. Alors ici, bon, quand j'arrive au pied de ce pont, qui est le pont d'Espagne, alors il ne portait pas ce nom au départ, il s'appelait le pont de Jerez, parce que le val au-dessus s'appelait le val de Jerez. Alors je disais, à quoi sert ce pont? Et le petit disait, mais je ne sais pas, Marc, à quoi il sert ce pont. Mais le plus simple, c'est tout simplement pour passer de l'autre côté. Mais pour passer de l'autre côté, pourquoi l'a-t-on créé à l'endroit le plus haut? Ça aurait été plus simple de le construire en bas, de moins s'embêter, que de faire des coffrages vachement difficiles à faire sur ces parois. Et les gamins disaient, oui, c'est plus joli. Effectivement, un pont dans cette faille géologique, c'est merveilleux. Mais ça a dû être compliqué. Mais on l'a créé là, parce qu'en fait, quand il y a des crues au printemps, le fait qu'il y ait un espace assez considérable entre la surface de l'eau et la base du pont, ont permis aux gens de ne pas avoir à le refaire chaque année, emporté par les crues. Et les premiers ponts étaient en bois. Alors George Sand est passé là, Victor Hugo, pour venir à boire un coup à l'hôtellerie du pont d'Espagne et ensuite courir jusqu'au lac de Gobe. Il y a des histoires merveilleuses d'amour sur ce pont.
Mais quand même, à l'origine, le pont d'Espagne, c'était quand même pour relier la France à l'Espagne.
Hein. Exactement, parce qu'ici, Cotteret, c'est un cul-de-sac, en termes routiers, pas en termes de randonnée. Et on allait jusqu'au Marcadeau depuis ici, en longeant le gave du Marcadeau, pour passer après par le port du Marcadeau. Quand on vient dans les Pyrénées, on a souvent port du Marcadeau, port de ceci, port de cela. Ce sont les cols qui permettent de relier la France et l'Espagne au quignon de Panticos. Donc c'est une commune qui se retrouve derrière la frontière. Et au Marcadeau, en occitan marcat, ça veut dire marché. Donc il y avait un marché assez important où les éleveurs, les artisans se retrouvaient pour faire des échanges, donc à une vingtaine de kilomètres en amont du pont d'Espagne. Et il y avait des grandes fêtes. Et aujourd'hui, il reste encore au fond de la vallée une zone indivise entre la France et l'Espagne qui est vouée au pâturage, aux estives.
Oh, quelle beauté, là, on est donc au bord de ce gave. Pont d'Espagne, le nom évidemment fait toujours rêver. Là, on l'a passé, et puis avec les cascades un peu partout. Il faut dire qu'il y a quand même eu un pari intéressant de la part de Cotteret, c'est que thermalisme oblige aussi, mais on n'a pas voulu s'appuyer sur l'hydroélectricité dans cette vallée.
Oui, je pense que ça a été aussi un facteur d'encouragement au niveau de la vallée de créer le parc national des Pyrénées pour préserver en fait la beauté des lacs sans avoir des surélèvements des hauteurs de lacs pour alimenter des centrales hydroélectriques. Donc ça a été un peu à la période après-guerre où on avait besoin d'énergie, quand ils ont créé les grands barrages comme celui de Cap-de-Long, de résister un peu à cette idée, et notamment aussi par rapport à leur cadre d'eau thermale. Je crois qu'ils avaient une petite inquiétude sur la modification de leur village et de l'orientation touristique et de curistes aussi. Donc tous les lacs qui sont en altitude sont épargnés de barrages ou de surhauteurs.
Quand on est dans un endroit comme celui-là, Marc Campin, comment on se situe par rapport à ce monde qui tourne de manière folle? Et puis quand on est là, au cœur d'une des merveilles du monde?
J'ai une chance inouïe, je sens que je suis un privilégié, mais parmi les gens qui vivent ici, qui continuent à vivre ici, à Cotteret, les jeunes qui veulent bien rester en développement peut-être des activités telles qu'accompagnateurs, guides ou moniteurs de ski, à essayer de rester au contact de cette nature qui est en fait vivifiante, parce que on ne s'en lasse pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble. Il y a la période des glaces où tous les bords de gave, comme on se trouve ici, sont à moitié gelés. On voit le simple plongeur qui s'enfile dessous. La vie continue malgré le froid. L'été, c'est un rafraîchissement incroyable. Donc c'est vrai que cette eau claire que l'on voit couler, là, on a envie de la garder comme ça. Mais de toute façon, elle se garde un peu aussi de manière seule. Hein. On ne va pas arrêter le cours de l'eau.
Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot tout simple d'écologie, aujourd'hui ?
Pour moi, ça a été vraiment une découverte nouvelle. J'ai fait d'autres métiers qu'agent de parc. Ce qui était mon quotidien en gardant les vaches dans l'hiver, j'ai pu nommer les choses, donc me les approprier un peu plus. C'est-à-dire que j'ai dû certainement me garder des vaches dans des zones à orchidées. Je ne savais pas que c'était des orchidées. Regarder du triton palmé en me disant, bon, c'est une bête de l'eau. J'ai compris par le biais de cette étude du vivant, puisque l'écologie, c'est en fait cette définition-là, que le vivant est partout autour de nous, il faut juste savoir orienter le regard. Quoi. Et à partir du moment où on oriente le regard, on devient, je crois, profondément différent.
Merci à Marc Campin. Et puis dans quelques instants, un autre homme aussi totalement imprégné de nature, ce sera Christian Rangeval. Nous irons juste à côté, dans la vallée de Lutour. Restez avec nous. Ah bah, là, écoutez, ça on n'a pas pu résister.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Tout s'oublie, je suis là, prends ma main. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu rêves de beauté et de jours sans fin, de te rendissant au cœur des forêts, viens avec moi, viens. On n'y voit pas de méchants, mais sales amis sont violets, fleurs et le vent. Viens, viens sur la montagne, là-haut. Sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là où il fait si bon. Tes yeux tendres me font voir que toi seul je tiens. Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien prendre ma main, laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si
Marie Laforêt, bien sûr, sur France Inter, dans CO2 Mon Amour. Nous sommes toujours dans les Hautes-Pyrénées, nous sommes au-dessus de Cauterets. Alors là, on a pris, j'ai presque dire, une autoroute un peu touristique, hein, celle du pont d'Espagne et du lac de Gaube. Et là, on va se faire un écart, on va aller dans la vallée de Lutour, ouais, 10 km, plus discrète, avec Christian Rangeval, autre ancien garde de ce parc national des Hautes-Pyrénées.
On est sur la vallée de Lutour. La fruitière, on appelle plus fréquemment fruitière, mais c'est la vallée de Lutour.
Alors, on a dépassé Cauterets.
On a dépassé Cauterets. Au lieu de partir sur Pont d'Espagne, Lac de Gaube, la fameuse vallée célèbre du Vignemale, on est parti sur la gauche.
Il y a moins de monde. Ah, il y a moins de monde.
Il y a moins de monde encore qu'en été. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Mais c'est une vallée qui est limitrophe, donc elle est côté parc national, de l'autre côté zone périphérique. Mais elle est très belle. Et puis, tu vois, les élus n'aménagent pas partout, puisqu'ils n'ont pas fait une route jusqu'au lac d'Eston. Donc, c'est encore très, très sauvage.
Donc là, on entend ce torrent qui est généreux. Hein, ça va. Alors, bien qu'avec le réchauffement climatique, il faut quand même le dire, là, cet hiver, vous avez eu beaucoup de neige, mais on sait que ça fond très vite, hein, que les glaciers quand même diminuent bien dans les Pyrénées.
Moi, j'avoue que ça me fait assez mal au cœur. Je les vois, en 30 ans, là, je les vois disparaître. Quoi, et même celui du Vignemale, j'y étais quelques temps avec mon fils. J'étais stupéfait du recul du glacier des Oulettes. Quoi, hein. Et dans cette région lacustre où nous sommes aujourd'hui, là, de toute la vallée de Lutour, il n'y avait pas véritablement de glacier, puisqu'après les sommets ne font pas tout à fait 3000, mais même il y avait le lac glacé qui est complètement... maintenant, il n'a plus de glaçons, il n'a plus de ces icebergs qu'il avait il y a quelques années.
Ah, Christian, là, sur le chemin, on voit... Alors, j'allais dire une petite grotte, hein, c'est pas exactement ça, ça a été en fait maçonné par les hommes. Et il y a de l'eau à l'intérieur, qu'est-ce que c'est, Christian?
On pourrait dire que c'est l'ancêtre du frigo. Sur Cauterets, ils appellent ça la cabinère. Ouais. Dans la vallée de Luz, ils appellent ça la lodge.
On dirait un petit puits, en fait, c'était maçonné. Il y a un linteau.
Il y a un linteau de pierre magnifique, qui est large, t'as vu. Certains spécialistes de la préhistoire, s'il n'y avait pas l'eau, tu dirais, mais c'est une ancienne tombe, tu sais. Il y avait des tombes où on trouvait les gens assis. Et non, ça a été fait uniquement sur la captation de la source. Et c'était drôlement bien fait, parce que tu vois, l'eau se conservait là. Tu mettais ton chaudron ou tes badines de lait, et ça conservait le lait au frais. Et quand le berger aussi fauchait, tu sais, en plein été, quand il y a les temps et tout, il mettait sa bouteille de rouge là, ou sa boisson. C'est mieux qu'un frigo. Hein.
Ah, je mets la tête dedans.
Et puis, t'as vu, s'il fait frais.
Oh, puis il y a des tétards, on va pas vous embêter trop là, les petits pères. Ah ouais. On va parler de ce fameux isard qui est à vous. Hein. Il est vraiment pyrénéen, celui-là. On ne va pas le trouver donc ailleurs. Qu'est-ce que c'est comme bête?
Beaucoup de scientifiques le rapprochent plutôt vers une antilope. Il y a des différences morphologiques. Donc l'isard est plus petit, adapté aux Pyrénées. Mais en fait, c'est deux espèces qui pourraient tout à fait cohabiter et se croiser. Quoi. Des fois, le touriste moyen croit qu'on appelle isard par chauvinisme. Quoi. Non, l'isard est quand même une sous-espèce, disons. Voilà.
On est dans l'ongulé quand même.
Espèce géographique, parce que si tu dis sous-espèce, il y a des Pyrénéens qui vont se vexer.
Et alors, tout petit, on lui apprend la montagne, hors pair, il n'a pas besoin effectivement de suivre un peloton de haute montagne, il sait monter.
Il sait monter, il suit sa mère, quelques heures après la naissance, il marchotte. C'est vraiment l'isard adapté au milieu montagnard. Quoi.
Il est quand même, là, on est à, oui, on le voit à peu près à 2000-2200 mètres, c'est ça?
Oui, c'est la zone à peu près qu'il fréquente à cette époque-ci. Alors, on n'en voit peut-être pas autant qu'il y a quelques années. Et donc, là, il y a eu très peu de naissances cette année. C'est pour ça qu'on ne voit pas de grandes chevrées, tu vois, avec beaucoup de petits. Mais c'est la nature, je veux dire, à partir du moment où on ne régule pas, puisque là on observe zone parc, c'est la sélection naturelle, c'est les intempéries l'hiver, le froid, les avalanches et les maladies.
Et alors donc cet isard, il est quand même très convoité, parce qu'il est bon, voilà. Alors vous avez fait quand même un boulot au parc tout à fait intéressant, parce que à l'ouverture il n'en restait pas tant que ça, en 1967, et puis aujourd'hui ça va bien. Enfin...
Non, l'isard c'était une des réussites du parc, il faut être honnête. D'abord il n'en serait plus resté, comme tu dis, à part dans des petites réserves. Et ça a été une réussite totale, puisque maintenant, dans la zone parc, on en compte pas loin de 6000. Quoi. Et puis surtout, avec les plans de chasse, on a réussi à convaincre les sociétés de chasse de laisser proliférer l'isard hors du parc. Donc le plan de chasse a eu ce mérite. Et puis même nous, on a joué le jeu avec certaines sociétés de chasse. On a lâché des isards, comme ici, dans le prolongement de la réserve du Pibest, dans le massif du Grand Quai. Ça a marché, ça vient de se renouveler récemment en Vallée d'Or.
Alors on va parler aussi d'un autre animal, celui-là évidemment on ne le verra sûrement pas. Je me souviens d'une fois on avait fait un affût au tétras, et là il faut dire que c'est le grand tétras. Racontez-nous quand même le chant du tétras quand il est amoureux, c'est à quelle période d'abord?
Il faut reconnaître une chose, le tétras c'est l'oiseau le plus fantastique au point de vue exubérance par rapport justement à ce chant de printemps, le chant des amours. Il n'y a pas un autre oiseau en Europe qui se déchaîne comme lui au printemps. Et ce qui est extraordinaire, donc, c'est voir cet oiseau qu'on ne voit pratiquement pas en dehors de cette période, dont la période de chant, c'est le mois de mai, avril-mai, suivant les altitudes. C'est ce paroxysme qu'il a quoi, dans son chant. Alors le chant n'est pas très mélodieux, mais bizarre, espèce de cisaillement. les Autrichiens imitaient un peu le chant du coq en affûtant, tu vois, comme quand tu affûtes une faux à faucher les prés. La poule répond, bon, un petit peu comme une poule domestique. Les coqs se narguent entre eux par des sauts sur place, mais impressionnant, vu que le volatile fait quand même dans les 3,5 kg, 4 kg, tu vois un peu le battement d'ailes, ce que ça peut donner.
C'est pas un grand voilier, hein, celui-là, on peut pas
du
dire.
Tout, il est lourd, c'est un gallinacé, il
c'est
est lourd.
Poule, hein, voilà, oui, c'est...
Et donc, quand il y a beaucoup d'oiseaux, cette compétition est assez extraordinaire à vivre. Si tu es à l'affût, bon, on se met à l'affût, on bouge plus, on essaie de photographier ou observer. Ouais. Parce que son chant n'étant pas tellement puissant, en fait, il faut qu'il chante pour attirer les poules avant tout le bruit des oiseaux... D'accord. De la forêt. Oui. Et donc, il est coincé par ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il ne va pas chanter en plein jour s'il voit une poule, un truc comme ça, mais le chant principal doit se passer avant les autres.
Okay.
Et voilà ce qui explique pourquoi il attaque si tôt.
Alors, c'est quand même une relique glaciaire, hein, c'est-à-dire...
Ah oui, le tétran, le grand tétran,
comme le lagopède.
Coq de bruyère, comme le lagopède, est une relique des époques glaciaires. Alors, on a un souci à se faire, à mon avis, on cherche les causes de disparition. Peut-être qu'on a un souci à se faire,
bah, réchauffement climatique,
on en revient
donc, toujours. Il monte, qu'à un moment, il ne peut plus monter.
Et puis voilà, alors, soit les milieux vont changer, la forêt va monter un peu plus en altitude, mais aura-t-il suffisamment de conditions favorables à sa survie? Je ne sais pas, c'est difficile à évaluer.
Ah, une grange d'altitude, avec quand même la caractéristique de l'architecture. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même un petit peu.
Il y a toujours la porte, tu vois, à double battant, qui...
Oui, oui.
Si tu laissais tes bêtes l'hiver,
oui.
Il fallait à tout prix que tu puisses rentrer avec la neige.
Oui, c'est... Ah, c'est
des
ça.
Fois, les gens ne comprennent pas pourquoi tu as deux battants. En fait, tu viens là, il y a de la neige, tu pousses ton premier battant,
hop,
et tu arrives à pénétrer dans la grange.
Ah, ben ça sent bon voilà. Le foin. Voilà.
Et au fond, tu avais souvent ce qu'on appelle le cul-bouche en haut. Enfin, suivant les vallées, là, ce côté ils appelaient le cul-bouche, c'est-à-dire une porte qui, elle, s'ouvre entièrement
ouais.
Pour pouvoir rentrer ton foin, en arrivant par le sol, si tu veux, à niveau de l'étage. Pour ne pas être obligé de monter tout ton foin, parce qu'à l'époque, c'était le foin en vrac, ce n'était pas les balles comme on trouve maintenant. Hein.
Allez, on va quitter cette
surtout grange. La double porte pour, justement, rentrer par le haut.
Hop là.
Voilà, on referme en quatre.
Eh oui. Christian, là on voit des châtaigniers qui bien sûr ont été plantés par les anciens et qui avaient leur signification parce que c'était l'arbre à pain et qu'il fallait manger. Quoi.
Oui, alors dans les Pyrénées c'était pas fréquent. Tu vois. J'ai réalisé quand j'ai passé des vacances en Corse et puis que les Corses m'expliquaient que ça a sauvé la Corse de la famine. Hein.
Et la Cévenne aussi.
Cévenne aussi. Et alors ici c'était peu pratiqué en fait, mais quand même tu en trouves un peu dans la vallée d'Argelès, en Béarn, etc. Et je trouve que c'est une idée qu'il aurait fallu reprendre. Si chaque génération après d'hommes avait continué à planter, mais ça servirait même aux ours à l'automne, ne serait-ce que pour récupérer de la graisse. Ils ont besoin de graisse pour passer l'hiver. Tu vois. Donc c'est des choses, on dirait qu'on n'y a pas pensé à ça.
Mais on sent qu'il y a des maillons, peut-être qui n'existent plus aujourd'hui ici, des maillons écologiques.
Moi, c'est l'impression que ça me fait parce que je ne suis pas scientifique, mais tu sais que j'ai une bergerie là, dans la vallée de Cotteret. À partir du moment où j'ai vu un jour à ma grange cette surpopulation d'insectes, j'ai réalisé derrière qu'il y avait surpopulation de lézards. Et ces lézards, ils arrivaient même à détruire les joints anciens qu'avaient fait les vieux en terre et de la chaux, quoi. Et ça m'a un peu affolé, parce que ça, je l'ai découvert en 2000, et puis ça s'exagère chaque année. Alors, il y avait beaucoup de couleuvres quand j'avais acheté cette grange. Là, on voit un manque de couleuvres. Les milieux se fermant, on voit un manque de faucons cresserelles. J'ai presque plus d'oiseaux nocturnes, alors qu'à une époque, j'en avais. Et tout ça, ça m'inquiète, quoi. Pourtant, les nocturnes devraient rester là, puisqu'il y a la forêt qui s'est agrandie. Et tu vois, on dirait comme ça que, suivant les années, il manque des maillons.
Et puis, bien sûr, il y a cette eau qui est en train de chanter, de cascader, de remplir les lacs, mais qui, elle, ne produit pas d'électricité, Christian, ici.
Ah non, ici, sur Cotteret, c'est flagrant que c'est une des rares vallées en France où les habitants, les élus, se sont opposés à la captation des eaux par EDF. Et ils ont préféré choisir carrément le parc national en se disant que c'est le seul moyen pour nous de préserver les eaux. Et c'est ce qui fait que quand on monte au pont d'Espagne, on voit toutes ces cascades, Boussès, la cascade du Cerisé, etc., avec des débits hyper importants.
Qu'est-ce qui vous bluffe dans cette nature, vous, ici, quand vous la voyez faire?
On ne peut pas comparer les Alpes et les Pyrénées. Moi, j'ai toujours été en admiration de tous ces glaciers, par exemple à Chamonix, quand j'ai découvert Chamonix, quand j'étais jeune, que je faisais de l'alpinisme. Mais il m'a toujours manqué ce que Russell appelait les yeux d'émeraude. Quoi. C'est cette série de lacs, quand tu es en haut d'une montagne, et que tu vois cette série de lacs de différentes couleurs, je trouve que ça, c'est pratiquement unique aux Pyrénées, quoi. Et tu le vis aussi, ça, vraiment, quand tu es dans la réserve du Néouvielle aussi. Tu es en haut du Néouvielle et tu as ces centaines de lacs qui miroitent, là, avec des éclairages différents. C'est un côté, je trouve, très poétique et magnifique.
On va quitter tranquillement donc les gaves de cette Bigorre qui était chère aussi à Jacques Chancel, qui passe son éternité à peu près une douzaine de kilomètres de là, de Cotteret, donc avec Christian Rincheval, que l'on remercie. Réussite sur l'Isard, mais alors réussite aussi, je tiens à citer un autre garde, Jean-Paul Cramp, parce que lui, il a permis de réintroduire le bouquetin, et ce sera peut-être l'objet d'une future émission. Et puis si vous aimez les chants pyrénéens, alors là, moi je vous renvoie sur les chanteurs pyrénéens de Tarbes. Hein, Michael Louit qui nous écoute, bien sûr que c'est ça. Merci à Camille Blanès, à Juliette Gou qui a réalisé l'émission, et Thierry Dupin qui a choisi donc ces deux disques. La semaine prochaine, alors là on change, on va être à 0 mètre d'altitude, où cela ? Mais on sera à 7, on sera dans l'Hérault avec Laurent Chevalier, médecin nutritionniste. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn, sur Blue Sky. Ah, allez, l'application Radio France aussi, hein, c'est au de mon amour, ben, bien sûr. Allez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.